Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour et bienvenue dans Le Défossé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphirine.
Ouh, cette lassitude, on l'a senti.
On est à la fin de l'année, ouais, ça commence à être compliqué.
Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. On va penser à autre chose pour 2021 du coup.
Ouais, on y croit. Et nous ne sommes pas seuls, aujourd'hui, on retrouve Paul Garat qu'on a déjà eu. Pour le jeu, c'était quoi le jeu déjà avec les bidules?
Gizmos
avec les bidules.
Exactement.
Ouais, on construisait nos bidules.
Voilà. Salut Paul Garat.
Salut Alex, salut Zeph.
Salut, ça va?
Trop contente de t'avoir au micro.
Bah moi je suis hyper contente aussi de vous retrouver.
Mais en vrai, on va pas s'occuper trop de toi aujourd'hui.
Non, c'est je pas sais. Toi qu'on c'est veut pas à moi que vous êtes venu voir en fait.
C'est bizarre de dire ça, attention. C'est un peu bizarre.
C'est un peu bizarre cette phrase.
Aujourd'hui, on va parler à Gabriel. Salut Gabriel.
Salut.
Alors Gabriel, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
De Histoire de peluche.
Alors, avant que tu nous parles d'Histoire de peluche, Gabriel, on a une tradition dans Le Défossé. T'étais pas au courant, donc voilà. Alors déjà, c'est que tu te présentes un petit peu et ensuite que tu nous dises quel genre de joueur tu es, donc quel genre de jeu tu aimes. Alors déjà, on peut commencer par qui tu es, par exemple par rapport à Paul Garat.
Je suis le fils de Paul Garat, j'ai 11 ans et demi.
Ouais.
Et ensuite... Et je pense que tu as plus d'heures de jeu que beaucoup de personnes qui nous écoutent.
Ouais, clairement. Et plus que moi, je pense, en fait.
Et comme genre de jeu, j'aime bien les jeux, les party games, on va dire, mais aussi certains jeux de gestion.
Comme
Agricola.
Ouais, voilà, à 11 ans. C'est beau.
En moyenne, tu bats tes parents combien de fois sur... À la volée comme ça, sur 5 parties, 10 parties, tu les bats combien de fois?
2, on va dire.
Ah, c'est
pas mal.
Plus,
ouais, moi aussi, je pensais plus, mais c'est déjà vraiment pas mal. Paul Garat qui dit plus rien. Elle pense que c'est plus souvent, je l'ai redit dans le micro. Ok, aujourd'hui tu vas nous parler... Ah non, on a aussi quelqu'un d'autre. On a Victoire. Salut Victoire.
Salut.
T'as quel âge Victoire?
5 ans et demi.
Et t'aimes bien quoi comme genre de jeu?
Love Letter.
Ah ouais.
Bien... ouais? Oui, elle connaît les cartes par cœur, c'est ça?
Oui.
Ah c'est fou.
Elle joue avec... Ouais, c'est impressionnant. C'est
et fou. Tu bats tes parents souvent au jeu?
Oui.
C'est vrai ou pas, Gabi?
Ouais. Oui, c'est vrai.
C'est complètement fou. On va surtout avoir Gabi au micro, Gabriel, et il va nous parler de Histoire de peluche. Alors, Gabriel, nous t'écoutons. Quel type de jeu c'est Histoire de peluche?
Explique-nous le contexte ou vas-y, lâche-toi.
Histoire de peluche, c'est un jeu coopératif où on va incarner les peluches d'une petite fille et on va essayer de retrouver sa couverture de bébé qui a été emportée par des créatures venant de sous son lit.
Mais c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Rien que le pitch, moi, je suis...
Je suis accroché de ouf de base.
Je suis accroché de ouf. D'ailleurs, en fait, Histoire de peluche, de base, on en avait entendu parler il y a 2 ans
au Fige,
où nos colocs de Fige avaient ramené le jeu et on voulait y jouer en pleine nuit, je crois.
Ouais, ils avaient fait une partie en pleine nuit, mais on avait
skippé le truc, mais ouais, assez cool.
Et alors, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de plateau de jeu, mais qu'il y a un grand bouquin.
Ouais, alors pourquoi? Explique-nous un petit peu, Gabriel.
En fait, dans le livre, il va y avoir le plateau. Et sur certaines cases du plateau, il va y avoir des symboles d'interaction. Et certains symboles d'interaction vont nous demander de lire des paragraphes qui vont être écrits sur l'autre page du livre. Parce que le plateau est sur une page et sur l'autre page, il y a l'histoire.
Donc on va choisir des personnages qui vont être des peluches, c'est ça?
Oui.
Et comment enfin, ça se passe en tour? On a chacun une action à jouer? Comment on fait?
On va, au début de son tour, on va piocher 5 dés dans un petit sachet. Mmh. Et il y a différents types de dés. Il y a 5 types de dés différents. Les dés blancs qui vont nous permettre de récupérer du rembourrage. C'est notre vie, nos points de vie. Qui sont, normalement, au début, on en a 5. Il y a les dés jaunes qui sont pour fouiller. Donc, on va pouvoir récupérer des objets. Il y a les dés rouges pour combattre, pour utiliser les armes. Le dé bleu qui sert pas à une action en particulier, mais on peut le stocker pour se défendre quand on va se faire attaquer.
D'accord.
Après, il y a les dés verts qui nous permettent de se déplacer, mais qui peuvent nous permettre de se déplacer vers des hauteurs. Donc, et aussi à attaquer grâce à des attaques à distance.
D'accord. Ouais,
donc, c'est un dé d'agilité. Et les dés noirs qui indiquent la progression des ennemis.
Des ennemis, ouais, c'est des ennemis.
Les dés noirs représentent en fait la menace qui plane sur les peluches qu'on incarne. Donc en fait, en gros, les ennemis, c'est les dés des ennemis.
Les dés roses, c'est des jokers.
D'accord.
Mais alors, c'est un super gros livre et vous nous parliez un petit peu de plusieurs saisons, etc. Là, on va faire une partie d'initiation. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques, parce que là, tu as dit que, par exemple, notre but, c'était de récupérer une couverture. Donc, chaque histoire, c'est pour récupérer la couverture. Ou est-ce que chacune nous permet de se rapprocher de la couverture ?
Le premier scénario va avoir son histoire. Et chaque autre scénario va avoir une histoire qui lui est propre. Donc, il y a 5 histoires. Enfin, non, c'est le contraire.
Donc, il y a à peu près 9 chapitres. Donc les chapitres, ils vont être composés de plusieurs pages. Une page, c'est environ 30 minutes de jeu.
Ah ouais, c'est court.
Là, on a parlé de la couverture parce que c'est le tout début.
Ah ok, c'est la première mission. Okay.
En gros, c'est un peu comme si vous aviez plutôt des chapitres. Et dans chaque chapitre, t'as des gros paragraphes à jouer.
D'accord.
Mais dans le premier, ça va être l'histoire de la couverture. Mais en gros, le thème général, c'est on part d'une petite fille qui est encore un bébé et qui va progressivement aller vers l'âge vraiment d'être un enfant un peu plus autonome. C'est vraiment ça qu'on suit dans toute l'aventure. C'est on accompagne fou, hein. Un enfant, en fait.
D'accord, un peu c'est la génial, Toy Story. Hein,
ce qui est un point de vue assez original parce que c'est pas trop le genre de thème qu'on privilégie dans les jeux de société.
Clairement.
Mais alors, Gabriel, du coup, c'est un jeu en coop, on est d'accord ?
Oui.
Donc, on va tous incarner une peluche différente ?
Oui.
Et on va tous essayer de récupérer cette couverture ?
Oui.
D'accord, c'est pas mal jusque-là.
So far, so good.
So far, so good, en effet.
Moi, j'aurais juste revenir sur les dés, parce qu'il y a des valeurs sur les dés, en fait. On va les piocher, on va les lancer, et on va voir ce que ça donne comme valeur, et ça change quoi, en fait, sur ça ?
Par exemple, quand on va combattre, si on a des dés rouges... et qu'on a des armes qui utilisent des rouges, on va pouvoir les lancer. D'accord. Et plus on a un haut résultat, plus on va faire des dégâts. Mais chaque ennemi a sa jauge de vie, et il faut réussir à faire plus que sa jauge de vie pour l'éliminer.
Ah, d'accord.
Oui. Il a de la défense aussi ?
Non, ils n'ont pas de
défense. Ouais, d'accord. Donc si on arrive à atteindre le nombre, on est bon.
Directement.
Oui. Ok, d'accord. C'est pas mal ça. Alors du coup, Gabriel, je veux bien que tu nous fasses ce qu'on appelle nous une fiche Wikipédia, donc nous dire à combien de joueurs ça joue, pour combien de temps à peu près.
Les auteurs
et illustrateurs. Et par quel éditeur ?
L'éditeur, c'est Played at Games.
C'est localisé par qui ?
Edge.
D'accord.
Pour 1 à 4 joueurs.
Ok.
Pour environ une histoire. Ça dépend des histoires, mais la plupart, c'est environ 30-45 minutes.
Ok.
C'est un jeu de Jerry Hawthorne, qui est l'auteur de Mice and Mystics et d'Aftermath, voilà, qui est un grand spécialiste du jeu narratif.
Bien sûr.
Voilà. Et comme illustrateur, si tiens, parce que ça a l'air très beau.
Alors, je crois qu'il y a plusieurs illustrateurs différents.
Ah ouais ?
Ouais, de mémoire, j'avais recherché et je crois que c'est plusieurs illustrateurs différents.
Ouais, tu dois avoir l'illustration, enfin les personnes qui font l'illustration des images, tu vois, le graphisme général et la mise en page.
Alors, j'ai une dernière question, Gabriel. Est-ce qu'on peut perdre ?
Pas vraiment.
Ah ouais ? Donc, on arrive à la fin du scénario, c'est sûr.
Oui.
Ouais, ok, donc ça devrait bien se passer.
C'est pas fait pour frustrer les joueurs.
Bah, les peluches ne peuvent pas mourir, mais elles peuvent perdre du rembourrage, et quand leur rembourrage tombe à zéro, elles s'évanouissent.
D'accord, et si on est tous évanouis ?
Là, par contre, on a perdu, mais c'est très rare.
Est-ce que d'une histoire à une autre, tu gardes le rembourrage que t'avais dans la dernière histoire ?
Quand on change de chapitre, on revient à 5. Par contre, quand on fait les scénarios d'un chapitre, on garde toujours la jauge de rembourrage qu'on avait à la partie précédente.
Ah ouais.
Ah oui, d'accord.
Quand même.
Ok, donc en fait, il y a les chapitres qui font des arcs narratifs qui sont découpés en plusieurs petites parties. Donc, et ensuite, on va avoir... Combien de chapitres tu disais, 5 ?
8.
8 chapitres. Putain, mais il y a de quoi faire pas mal de parties.
Je crois qu'il y a 9 chapitres en tout et à peu près 5-6 scénarios, on va dire, dans un chapitre. Après, je pense qu'il y a... Selon les gens, selon les joueurs, si tu es adulte, effectivement, je pense que tu peux enchaîner les scénarios et faire un chapitre complet. Mais je pense que ça te prend bien 3 heures parce qu'en fait, tu as un peu de mise en place. Nous, c'est vrai qu'avec les enfants, quand on y joue, on fait plutôt un chapitre parce que ça fait 30 à 40 minutes. C'est bien pour une durée. Alors,
un scénario.
Ouais, un scénario. Enfin, voilà, une partie. Pour Gabriel, c'est largement. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais pour Victor, c'est un peu long. Sinon, au-delà, ça devient un petit peu long. Voilà.
Ok.
Bon, moi, je suis très, très hypé. Ça fait 2 ans que j'attends de jouer.
Ouais, voilà, je ne sais pas pourquoi on répond à ces questions. On sait qu'on est ultra hypé.
Et puis, on va être guidé par Gabriel qui a combien de parties environ à son actif ?
Une dizaine, on va dire.
Ok. Donc, en vrai, ça devrait bien se passer.
Ok, chaud.
Chaud.
Go.
Maman et papa échangent des regards nerveux tout en observant leur enfant qui grimpe dans son nouveau grand lit. À l'instant où elle l'a aperçu, la fillette est tombée amoureuse de ce magnifique meuble violet et bleu surmonté d'une tête sophistiquée. Après l'avoir ramené à la maison dans un gros carton, papa a passé tout un après-midi à l'assembler dans le garage. La petite fille a déjà fait la sieste une ou deux fois, mais cette nuit sera la première où il remplacera vraiment sa couchette d'enfant. Lorsque papa a démonté le lit à barreaux ce jour-là, maman a versé quelques larmes. Et l'enfant s'est sentie curieusement triste, elle aussi, en regardant son père le remiser dans le grenier. Mais elle n'est plus un bébé à présent et elle dormira dans le lit de grande fille. Ses parents l'abordent et papa lui caresse les cheveux pendant que maman fredonne une chanson du soir avec une boule dans la gorge. En sortant de la chambre sur la pointe des pieds, il laisse la porte entrouverte et le silence se fait dans la pièce. La respiration de la fillette se calme, tandis que l'horloge, en forme de chat sur le mur, laisse entendre son tic-tac. Tic-tac. Une par une, toutes les lumières de la maison s'éteignent et les parents vont rapidement se coucher. Tic-tac. Théodora, nounours, s'assoit dans le nouveau lit de grande fille et après s'être étirée, observe les environs avec admiration. Qu'est-il arrivé au lit d'enfant ? Elle frotte ses yeux de verre et se penche au-dessus de la fillette pour s'assurer que celle-ci dort profondément. « Où sommes-nous, Théa ?» demande une voix apathique. « Où sont passés les barreaux ?» Pato, l'éléphant en peluche, regarde autour de lui d'un air anxieux. « Je n'en sais rien, Pat, » répond Théodora. « C'était déjà comme ça quand je me suis réveillée. »«
J'ai peur, » murmure Pato.
Flagada atterrit soudain entre eux deux en gloussant ses longues oreilles et battant l'air autour d'elle. « J'adore !» s'exclame-t-elle. « C'est beau !» Et ça rebondit. Flagada siffle aussitôt Théodora. « Arrête de sauter partout, tu devrais avoir plus de jugeote !» Ainsi, ça a fini par arriver, déclare Suture. Tous les regards se tournent vers le vétéran effiloché et boiteux qui vient de parler. Suture a déjà servi pendant les années de croissance de la mère de la fillette. Il est affligé d'une claudication et de boutons dépareillés en guise d'yeux, mais les autres peluches aiment tendrement la vieille et sage poupée. « Qu'est-il arrivé, monsieur Suture ?» demande Théodora. « Le moment est venu, » répond-il, « celui pour lequel nous nous sommes tous engagés. Nous n'étions jusqu'à présent que des compagnons, car notre jeune enfant était protégé par la magie de son lit à barreaux. Mais cette nuit, elle dort dans un lit de grande fille et notre devoir envers elle débute véritablement. Il viendra la prendre et nous l'en empêcherons. Qui va venir, monsieur Suture ? Crépitus, le seigneur des cauchemars. Il enverra ses sbires monstrueux, kidnapper ses douze enfants et nous seuls serons en mesure de la protéger. À cette pensée, la vieille poupée gonfle le torse de fierté. Crépitus, répète Théodora, je ne savais pas qu'il était réel.
Pourrions-nous payer quelqu'un d'autre pour s'en charger, chuchote Pato ? Ce serait bien plus sûr.
« Je crois qu'il serait sage de se séparer et de fouiller la maison en quête de provisions, » suggère Suture. « Théa, je vous fais aveuglément confiance à ce sujet, monsieur Suture, » dit Théodora. « Mettons-nous au travail. »
Ouais,
voilà.
Mais là, du coup, il en faudra un...
Mais là, tu peux attaquer, non ?
Mais je peux attaquer,
Ouais, tu peux attaquer pour moi. Y a pas de souci. Et l'intérêt, c'est d'attaquer avec deux dés plutôt qu'un.
J'ai dit, toi, elle a un pouvoir super. Elle, c'est... elle, si elle se bat avec un dé rouge, elle peut rajouter son nombre de rembourrages à son attaque.
Bah, ça, c'est là.
Ça, c'est pas mal.
Ouais, je suis pas sûre que ça portait ça.
Donc là, elle peut pas se déplacer, Victoire. Il faut absolument un dé vert pour se déplacer, c'est ça, Gabi ?
Ouais, il y en a.
Ouais.
Mais j'ai un dé vert !
Bah, alors vas-y, déplace-toi.
Je peux le tuer à partir du moment où je suis là, je peux le toucher.
Par contre, il faut faire
deux.
C'est un peu le problème.
Un, deux.
Soudain, les frondaisons s'écartent tandis que le convoi s'engage sur un pont métallique bâti en travers d'une rivière tumultueuse. Qu'est-ce qu'il y a ? Loin, en contrebas, les peluches aperçoivent une poignée d'étrangers qui voguent sur un simple radeau de bois. Tout ça va enfin devenir amusant. Gagner un cœur.
Tout ça pour ça. Gagner un cœur.
C'est pour moi.
C'est pas toi qui...
Ouais, c'est pas toi.
Il
Se déplace, peut se déplacer.
Non,
il a une portée de 3.
Charabia obsédant.
Il peut se déplacer de 3, il a une portée de 5 et il fait 5 dégâts, mais je peux me défendre.
Et si s'il me fait du dégât, je prends une condition inquiète.
Alors vas-y, donc défends-toi. 3. Il fait 2 dégâts.
Et nous voilà de retour dans le défossé après 1h16 d'Histoire de Pluche en compagnie de Gabriel et Paul Garin. Alors Zéphiriel, dis-moi tout, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Eh bien écoute, sans condition, sans en étant sûr, sans surprise, c'est une réussite pour moi. Parce que déjà, un, on a gagné. Et deux, oui. On a gagné tout le premier chapitre, on l'a fait, je dirais même parfaitement bien. Mais j'étais accroché depuis le début, depuis que j'ai vu ce jeu sur les étals, la thématique. J'avais kiffé My Sim Mystic, donc j'étais forcément accroché à ce jeu-là. Je le trouve ultra mignon.
Il est trop beau.
Visiblement, c'est une tuerie. Le système de jeu est plus sympathique que dans My Sim Mystique parce que plus permissif et moins, moins punitif que ce qu'elle était sur My Sim Mystique. Les figurines sont superbes. Le thème est trop cool. Ça me rapporte plein de trucs de jeux de rôle comme c'est pas Little Nightmare, mais c'est. Enfin, bref, j'ai un autre jeu en tête, mais je ne retrouvais pas le nom là tout de suite. Tiny aussi, c'est le même genre de truc et c'est trop, trop mignon. Donc, moi, j'ai adoré et c'est clairement dans ma wishlist en top priorité, quoi. Ça remonte tout de suite. Vraiment, c'est trop sympa. C'est j'ai trop envie de connaître la suite, voir comment ça évolue, l'histoire, les chapitrages. En fait, le chapitrage est tellement agréable que c'est. T'as envie de continuer, tu veux connaître la suite. Et franchement, c'était vraiment trop cool. Donc, j'ai kiffax de ouf.
Voilà, parce que pour expliquer un petit peu, on a fait le premier scénar du jeu. L'introduction avec plein de qui introduit pas mal de dynamiques de jeu, etc., de mécaniques de jeu. Et en fait, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une continuité. Et donc, en fait, là, la première aventure qu'on a introduit des antagonistes, et puis la fin de l'histoire qu'on vient de faire laisse penser que voilà, on a peut-être gagné cette première partie, mais qu'on n'a pas remporté la guerre. Et que, très honnêtement, ça va être un travail de longue haleine. Et c'est énorme parce que, Paul Garat, déjà, tu nous disais. Je ne sais plus si tu nous disais en off ou en première partie, mais tu nous expliquais qu'on allait suivre l'évolution aussi de la petite fille. La petite fille a grandi, etc. Et donc, on va suivre des aventures qui auront sans doute un rapport.
Oui, c'est ça. Dans le premier scénario, en fait, elle change de lit. Donc, elle sort du lit de bébé pour un lit d'enfant. Et donc, en fait, toutes les aventures sont liées à sa progression, à son évolution et à toutes les peurs que ça peut générer pour un enfant. En fait, c'est intimement lié. Donc, mais c'est jamais lourd ou trop. Enfin, ça fait pas du tout éducatif, etc. Ça reste quand même dans un univers qui est très féerique. Enfin, c'est pas féerique, mignon. Hein. Il y a un petit côté dark aussi. Enfin, c'est un univers imaginaire qui est assez. Moi, je trouve qu'il est assez riche, en tout cas. Et ça retranscrit vraiment la dualité de les peluches bienveillantes qu'on incarne contre toutes les peurs d'enfants traditionnelles. Et c'est ça qui est vraiment bien exploité dans le jeu. Et c'est aussi un thème qui est un petit peu plus original. Et puis, le visuel, vous l'avez dit, est très important parce que ça nous... forcément, on pense à Tim Burton, on pense aussi à la thématique de Toy Story ou de Small Soldier, les jouets qui prennent vie, qui est un super film que je vous recommande, un vieux film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu.
Fin des années 90.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour les moins. Voilà, et alors là, c'est très différent. Nous, on avait déjà fait cette première partie, mais nous, on l'avait fait en plein de fois. On n'avait pas été aussi efficace qu'avec vous. Donc, vous nous avez vraiment transcendés. On vous remercie. Je pense aussi que c'est parce que les règles, malgré tout, comme Zef l'a dit, les règles de ce genre de jeu sont tout souvent très lourdes. Toujours. C'est toujours très scripté. Il faut faire les choses dans un certain ordre. Les premières parties, nous, on a eu quand même un peu de mal. Il faut revenir aux règles, etc. Là, on commence à être un peu plus rodés. On a été un peu plus efficaces. Et puis, on a fait des meilleurs choix, mieux exploiter les capacités des persos. Ce qui est plus difficile quand je joue avec les enfants, parce que j'en ai une qui ne sait pas lire. Donc, elle ne sait pas lire les capacités. Donc, faut que moi, je gère les deux, voire trois personnages. Donc, je pense qu'on est aussi moins efficaces pour ça. Moi, je trouve que ça marche très bien avec les enfants, malgré tout.
Bah justement, en parlant d'enfants, Gabriel, comme toi, tu avais aussi déjà fait ce scénario qu'on a fait en introduction là. Donc est-ce que c'est rejouabilité pour toi, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie en particulier?
Je savais déjà ce qu'on allait faire à peu près,
ce qui nous attendait,
donc j'avais pas trop de surprises, mais ça a été quand même bien de le refaire parce qu'on a progressé par rapport à la première fois qu'on l'avait fait, le scénario. Oui, il y a un événement qu'on a réussi à faire, tandis que la première fois qu'on l'avait fait, on ne l'avait pas fait. Donc, du coup, ça nous a fait faire un cheminement différent de la première fois où on l'a fait.
Que tu ne connaissais pas.
Oui, donc je ne le connaissais pas. Donc, il y a de la rejouabilité, un peu de rejouabilité.
Un peu de rejouabilité, oui. Mais du coup, là, cette partie, est-ce qu'elle te donne envie de... Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'elle te donne envie de réessayer les autres scénarios que tu as pu faire en essayant de prendre des embranchements un peu différents, ou au final, tu restes quand même dans ton optique de finir... Je sais pas, c'est une question que je me pose vraiment.
Oui, j'aimerais bien refaire les scénarios, mais je préférerais quand même finir ce qu'on a commencé.
Non, je comprends complètement.
Toi, Alec, écoute ton avis.
Ouais, j'aime pas les coops, mais j'aime bien les mondes mignons. Mignons et un peu quand même dérangeants, déjantés. Et là, on est en plein dedans. Je pense que c'est... Alors, pour ceux qui connaissent le vaisseau Hyper Sensas, je pense que c'est un jeu qui plairait tellement à Nivrae.
Ah, mais grave.
Comics Outcast. Et C'est fou parce qu'on a le petit côté kawaii choupi, mais on a des petites armes aussi très sympathiques. Et je pense qu'elle kifferait. Et en fait, moi, ça me vend un univers, vraiment. C'est un jeu qui, pour moi, c'est un instant buy, vraiment. Avec du coup, mais même les petites figurines et tout. Enfin, ça te met dans un cadre. Et je pense que, bah, voilà, avec des enfants, là, on est à preuve. C'est la première fois dans le défaussé qu'on a des enfants autour de la table. Mais ça ne m'étonne pas en fait que ça fonctionne super bien. Et il y avait cette tension quand même des fois. On a failli...
Oh, on a quand même eu des évanouissements, parce qu'on ne peut pas mourir hein, quand même. Et on est quand même tombé dans les pommes. On a eu une petite tension sur un boss. Il a fallu être un peu stratégique.
Ouais, ça suffit pour mettre de la tension. En fait, ce genre de jeu, je reproche justement... C'est ce que je reprochais à Massive Mystique à la base, c'est de dire tu perds vraiment le scénario bêtement parfois sur un mauvais jet de dés, une mauvaise situation.
Oui, il y a une part de hasard, hein, là, ouais.
Mais là, la part de hasard, elle est vachement mieux contrôlée, en fait, par ce système de dés et de couleurs. Et du coup, ça t'oblige à être stratégique et à pas être frustré sur une bêtise. Et je pense que quand tu perds dans ce jeu-là, c'est vraiment que bah, t'as vraiment mal joué, du coup, tu le mérites.
Bah là, on y était presque, hein, quand même. On a eu chaud à la fin avec la petite fille qui allait se réveiller, hein. Donc on,
ouais,
enfin, pas,
je suis pas sûr qu'on n'ait pas été près de perdre, mais peut-être d'avoir une autre fin différente. C'est pas.
Oui, on a eu la meilleure fin possible, mais on aurait pu avoir une fin un peu moins réussie. En fait, c'est la fin que tu vas avoir, elle va être meilleure. C'est-à-dire, c'est l'évolution de l'enfant en fait qui va être plus sereine ou plus chaotique.
Voilà, ce que j'appelle perdre, c'est vraiment le fait de se dire, ben, en fait, faut refaire le scénario parce qu'on a perdu.
Oui, mais là, j'ai l'impression que c'est un scénario qui n'existe pas, ça.
Si tous les personnages tombent évanouis.
Ouais, il faudrait qu'on tombe évanouis tous en même temps, quoi. Donc, bon.
Ça reste difficile. Et c'est pour ça que je dis, s'il en arrive dans cette situation-là, c'est vraiment qu'on a très mal joué. Dans ce cas-là, c'est mérité. Mais le jeu évolue malgré tout. Et ça, je trouve ça plutôt agréable dans ce type de jeu parce que si tu dois refaire un scénario juste parce que tu perds sur un jet de dés, c'est un peu frustrant au bout d'un moment et parfois ça te force à aller plus loin malgré tout, quoi. C'est un peu relou.
Non mais là je trouve qu'on a été une très très bonne team, qu'on a bien géré à chaque fois nos petits bonhommes, nos petits boutons et nos petits rembourrages. Bon, il a failli renflouer plusieurs fois certaines personnes autour de cette table, mais...
on t'en veut pas, Alex, c'est pas grave.
Mais on était deux là. Pour le coup, c'est la team des fossés qui avait besoin de rembourrage, ça allait pas du tout, mais c'est super cool. Alors franchement, Gabriel, merci beaucoup,
ouais,
de nous avoir
une fois
présenter le jeu. Est-ce que tu peux nous refaire une petite fiche wiki? Ou Paul Garin, est-ce que tu peux nous faire une petite fiche wiki? Au choix. Gabriel, vas-y, commence.
Donc c'est Histoire de peluche, un jeu de Jerry Hawthorne, illustré par Kristen Pauline et Tregis. Il a été édité par Played at Games et est localisé par Edge.
Ouais, et pour quel âge et combien de personnes?
À partir de 7 ans, de 1 à 4 jours.
Bon, 7 ans avec des parents qui sont très gentils, qui vous lisent tout, hein.
Ça, il faut penser qu'il faut aimer lire quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de lectures. Et ça, si t'es vraiment réfractaire, faut abandonner, le jeu n'est vraiment pas fait pour toi.
Ah, c'est clairement de la narration.
Le jeu est quand même dans un bouquin. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, le plateau est littéralement dans un bouquin. Les plateaux. Bon, bah, merci beaucoup, Paul Garin et Gabriel. C'était un plaisir, franchement, de découvrir ce jeu, mais qui est juste magnifique avec vous. C'est notre jeu, pas le dernier jeu de l'année, parce qu'il nous reste le 31, mais il me semble que c'est le jeu de Noël. Donc, on vous souhaite quand même. Ouais. Joyeux Noël à tous. On espère que vous avez été assez sages pour avoir le Père Noël qui passe. Zéphiriel, c'est clairement non. On connaît la réponse.
Moi, j'ai que le Père Fouettard qui passe tous les ans.
Exactement. Noirs. Donc, en tout cas, on vous souhaite à vous, Paul Garin, bah, toute ta famille, en fait, un très, très bon Noël. Zéphiriel, malgré tout aussi.
Sympa.
Et on vous dit bah, à
Je
dans une
un bon
semaine.
Noël aussi, Alex.
On vous dit à dans une semaine pour vous souhaiter, du coup, la bonne année.
Voilà. Ciao, ciao.
Bye.
Au revoir.